Blague sur Radio Fidélité, Charlotte Seignard.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des programmes de Radio Fidélité. Au programme du MAG d'aujourd'hui, il sera question de changement climatique avec la chronique quotidienne de Domitille de Vevey. Puis pour faire le point sur la météo depuis le début d'année et sur les tendances à venir, j'accueillerai Christophe Pain qui est chef du Centre météorologique de Nantes. Tout ça c'est en deuxième partie d'émission. Mais avant cela, lumière sur la reprise scolaire obligatoire pour les élèves du primaire et les collégiens. On en parle plus en détail avec mon premier invité joint par téléphone, Céline Sierra. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire départementale du SNU-IPP-FSU de Loire-Atlantique. Vous êtes également directrice d'école. Alors, suite à l'annonce du président Emmanuel Macron, je l'ai dit, tous les élèves du primaire et du collège devaient reprendre le chemin des écoles à partir de lundi dernier, le 22 juin. Comment est-ce que vous avez reçu cette annonce ? Est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise nouvelle, Céline Sierra ?
Bonjour. Alors, c'est une bonne chose que tous les élèves doivent retourner à l'école. Après, il faut voir les conditions dans lesquelles ça s'est fait. C'est-à-dire que, concrètement, pour parler des conditions, l'annonce du président du dimanche soir, donc une semaine avant la reprise effective, qui est suivi d'annonces médiatiques du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale. Et puis enfin, le mercredi soir, les chefs d'établissement, les directrices et les directeurs d'école, et donc les enseignants reçoivent le cadre du protocole sanitaire qui a été allégé. Ça veut dire que finalement, les établissements et les écoles n'ont eu que 2 jours pour préparer à nouveau cette énième reprise. Et donc, il s'est préparé dans les mêmes conditions que les précédentes. Donc voilà, si on peut n'être que satisfait que tous les enfants retournent à l'école parce que la crise sanitaire a révélé et aggravé les inégalités, et donc c'est très important que les enfants reviennent à l'école. On peut quand même se dire que les conditions de cette reprise ont été n'ont pas été les bonnes et ça aurait dû se faire dans de meilleures conditions.
Oui, ça s'est fait dans l'urgence et pas dans les meilleures conditions selon vous.
Alors ça s'est fait dans l'urgence et puis ça s'est aussi fait avec un manque de confiance, voire un certain mépris du gouvernement, puisque le gouvernement préfère toujours faire ses annonces aux médias plutôt qu'aux enseignants directement et à leurs différents échelons hiérarchiques. Il y a un moment donné où quand on veut que les enseignants, on souhaite que les enseignants avancent, ensemble et puis face au mieux. Peut-être c'est bien aussi de travailler avec eux, avec leurs représentants du personnel. Là, actuellement, c'est loin d'être le cas.
Oui, c'est la façon de faire qui ne vous a pas plu, si je comprends bien.
Elle ne nous a pas plu, c'est évident. Elle a même, je dirais, aggravé la situation. C'est-à-dire que si on avait eu des informations en amont et on avait pu discuter en amont de la faisabilité des choses, on aurait travaillé dans des conditions plus sereines, moins précipitées, et donc l'accueil aurait été meilleur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les conditions dans lesquelles on a travaillé, ça a aussi engendré des inquiétudes, des incertitudes pour les familles. C'est-à-dire que les familles n'ont pu être informées finalement des conditions de la reprise lundi 22 que le vendredi. Autant vous dire que pour des familles qui attendaient aussi cette reprise, là encore, les conditions étaient mauvaises. Donc voilà, il y a un moment donné, il faut aussi que le gouvernement puisse entendre qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Il faut aussi qu'il travaille avec les professionnels, notamment de l'éducation nationale.
Alors, vous parliez d'un protocole sanitaire allégé. Quelle est la différence avec les semaines précédentes, Céline Sierra ? On parle souvent d'une distanciation physique qui est moins élevée qu'auparavant. C'est surtout ça ?
Alors, il fallait imaginer une personne avant, donc au centre d'un cercle et autour de cette personne. Personne ne peut entrer dans l'espace donc d'un mètre autour de cette personne. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que si on est dos à dos ou l'un derrière l'autre, on peut être plus proche d'un mètre. C'est le cas aussi dans les classes quand la distance latérale, c'est-à-dire sur les côtés, n'est pas possible. Ben finalement, on peut être plus proche qu'un mètre. On peut être plus proche qu'un maître dans les réfectoires. On peut être plus proche dans la cour de récréation, y compris face à face. On peut être plus proche quand on se lave les mains. Donc finalement, la distanciation physique, elle n'existe plus vraiment. Donc quand on est assis à sa table de classe, éventuellement, hein, parce que le protocole, c'est clair, c'est seulement si c'est possible, elle ne va exister. En fait, la seule distance qui est conservée, c'est entre les groupes d'élèves et non plus entre les élèves. Enfin, après, le lavage des mains perdure. Voilà.
Est-ce que les écoles ont manqué de moyens pour faire face à cette crise sanitaire et notamment concernant ce protocole sanitaire ?
Alors, au départ, elles ont manqué de moyens. Elles ont manqué de moyens quand il fallait accueillir les enfants de soignants, les écoles. Elles ont manqué de moyens le 11 mai parce que tout n'était pas encore prêt pour les raisons dont je parlais tout à l'heure. Mais par contre, aujourd'hui, c'est pas la question n'est pas des moyens pour faire face au protocole. En tous les cas, pas dans notre département. Par contre, la question, elle est des moyens pour prendre en charge les élèves pour lesquels les apprentissages ont été moindres, forcément, avec le confinement, le non-retour à l'école. Et donc là, la question des moyens, elle va se poser plutôt par rapport au nombre d'enseignants, au nombre de classes disponibles. On a vu, on a vécu quelques semaines là, avec des groupes classes réduites. On le savait déjà, hein, que c'est, nous savions que en tant qu'enseignant, que le groupe classe réduit, c'est quelque chose de bénéfique pour tous les élèves. Et effectivement, là, le retour de 25-30 élèves par classe, ça, mais on va voir aussi la différence.
Alors, pour revenir à ce retour obligatoire des élèves d'école du primaire et du collège, Céline Sierra, c'est important et nécessaire, et même pour 2 semaines de cours seulement, parce qu'on arrive bientôt aux vacances d'été, c'est important de revenir même seulement pour 15 jours de cours.
Oui, c'est important parce que comme je disais, le confinement a éloigné les enfants de leur métier d'élève, de ce que c'est qu'apprendre, même si beaucoup ont travaillé à la maison. Travailler en classe, c'est différent. C'est une autre relation aux personnes, une relation à l'enseignant, à l'élève, une relation entre les élèves. Et donc, retrouver l'école et les habitudes scolaires, c'est très important pour préparer la rentrée. Et ça permet aussi de clôturer factuellement une année scolaire qui a été difficile. Donc, et donc de pouvoir s'engager pleinement dans la suivante. Donc oui, c'est quelque chose d'important de retourner à l'école.
Oui, donc au-delà de l'aspect pédagogique, c'est aussi l'aspect social qu'il est important de reprendre.
L'aspect social, l'aspect psychologique aussi, et effectivement l'aspect pédagogique, bien évidemment.
Alors avant ce 22 juin, c'était un retour au sein des classes sur la base du volontariat. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Selon vous, il aurait été préférable que ce soit obligatoire dès le début, Céline Sierra, parce qu'on parlait des difficultés scolaires de certains, du décrochage scolaire, il y a aussi la fracture numérique. Et pour certains, cette fin d'année va être difficile pour ces enfants qui n'étaient pas présents dès le début. Est-ce qu'il aurait fallu que le retour dans les classes soit obligatoire dès le début ?
Oui, c'est certain. Il est évident que tous les élèves auraient dû pouvoir revenir en classe dès le 11 mai. Et évidemment, en respectant le protocole sanitaire qui était mis en place, c'est-à-dire faire revenir tous les élèves en classe, ça ne veut pas dire les faire revenir tous les jours sur les 24 heures de classe, mais ça aurait été vraiment important que ce retour soit obligatoire, ne serait-ce qu'une journée, une demi-journée par semaine, quand c'était possible, et parce que pour les raisons que je vous dis encore une fois, c'est-à-dire que apprendre dans une classe avec on bénéficie de l'effet du groupe, de la remise en marche de ses habitudes de travail, on retrouve partiellement donc son métier d'élève, même si on retourne à l'école qu'une journée par semaine, et donc il y a une sorte de sursaut, hein, parce que les enfants l'ont vécu dans le confinement. On se rend bien compte en échangeant avec les familles que les parents disent au début ça a été. Au début ça a été, les enfants étaient engagés dans leur travail, ils arrivaient à faire les choses, ils arrivaient à faire notre travail, et puis plus le temps est passé et puis moins c'est allé finalement, et là on se rend compte que mai, juin, ça a été des moments difficiles pour maintenir l'attention des enfants du côté des familles. Donc, évidemment que si on avait réussi à redonner ce petit coup de pouce à chaque enfant une fois par semaine, ça aurait été bénéfique et on aurait certainement encore un peu moins agrandi les écarts entre les enfants du point de vue scolaire.
Alors, je l'ai dit, vous êtes également directrice d'école. Et est-ce que les enfants étaient au rendez-vous lundi dernier, notamment au sein de votre école, Céline Sierra ?
Oui, les enfants sont présents. Oui. On va dire à un ou deux élèves par classe près, les enfants sont là.
Alors, on parle beaucoup des enfants, mais les professeurs ont également énormément travaillé pendant ces quelques mois entre l'envoi des cours en ligne pour ceux qui n'étaient pas présents et donner des cours en présentiel. Aujourd'hui, dans quel état d'esprit sont les professeurs ?
Alors, les enseignants sont fatigués. Ouais. Les enseignants sont fatigués parce qu'on est parti... non pas prêt pour faire l'école à distance, mais au contraire à devoir tout inventer chez nous, tout seul, sur place, avec nos moyens personnels et donc pas forcément les meilleurs moyens numériques. Donc il a fallu tout inventer. Ensuite, on a repris avec les conditions de stress personnel, individuel et puis collectif au moment du 11 mai. Et si tout le monde était content de revenir en présentiel à l'école, ça ne retire pas, mais évidemment, les questionnements qu'on pouvait avoir hein, autour des protocoles, etc. Donc voilà. Et puis il a fallu maintenir le présentiel et le distanciel malgré tout, même si le ministre disait qu'on n'était pas obligé de le faire. Mais en fait, quand on a sa propre classe, une classe, qu'on a des élèves d'un côté ou de l'autre, il est impossible de ne pas s'occuper de certains. Donc, énormément d'enseignants ont fait présentiel et distanciel. Et puis, il a fallu sans arrêt réinventer l'école et se coordonner avec les équipes, avec les familles, pour réussir à faire revenir par vagues dans la précipitation un certain nombre d'élèves. En tant que directrice, je pense que... J'ai jamais fait autant de tableaux pour organiser cette école le mieux possible. Et même quand ça se passe bien, évidemment, c'est épuisant parce qu'il y a des échanges avec la municipalité, le périscolaire à mettre en place, à discuter, parce que c'est évidemment pas nous qui le faisons, mais à discuter. Les différents interlocuteurs et toujours avec un manque d'information très, très, très important de la part de l'éducation nationale. Qui fait que finalement, on a l'impression d'être un peu laissé seul. Alors, je dis seul, c'est-à-dire dans les études d'école, à devoir tout faire le mieux qu'on peut, mais avec peu de moyens. Donc, les enseignants sont fatigués, sont relativement épuisés, mais aussi satisfaits d'être dans leur classe. Hein.
Et pour terminer, selon vous, que faudrait-il retenir de cette période inédite qui a été compliquée à gérer pour les parents, pour les enfants et les professeurs ? Est-ce que c'est ce que vous venez de dire, c'est essayer d'améliorer le discours entre gouvernement et représentants d'enseignants et de professeurs ?
Ce que je retiendrai, c'est que le travail avec les familles est nécessaire, l'école avec les familles, que il y a trop d'inégalités en France et qu'il faut vraiment se poser autour d'une table et réfléchir à comment est-ce qu'on réduit ces inégalités. Le SMIPP dans la FSU a un avis là-dessus important, qui est d'augmenter le nombre d'enseignants, de la nécessité d'un plan de recrutement d'enseignants. Pour les écoles et les établissements du second degré, que les enseignants n'ont pas de moyens pour travailler et que nécessairement ils en ont besoin et que il faut absolument s'occuper des enfants qui sont, comme on l'a dit, éloignés des outils numériques, éloignés de l'école et c'est vers eux qu'il faut aller le plus, qu'il faudrait aller le plus et dès la rentrée.
Céline Sierra, je rappelle que vous êtes co-secrétaire départementale du SNUIPP-FSU de Loire-Atlantique. Vous êtes également directrice d'école. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour Radio Fidélité.
Je vous en prie, merci.
Et tout de suite dans le MAG, c'est l'heure de la chronique quotidienne de Domitil. Bonjour Domitil.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
Le printemps 2020 qui s'achève se classe au deuxième rang des plus chauds en France. Le mois de mai de cette année figurera parmi les mois de mai les plus chauds, avec une température moyenne de plus de 16,5 degrés. L'hiver 2020 avait déjà été le plus doux en France depuis le début des mesures. Alors que penser de cette météo ? Domitil, vous faites le point et vous répondez d'abord à cette question. Quelle est la différence entre le temps, la météo et le climat ?
Eh bien, la météo désigne le temps qu'il fait aujourd'hui ou dans les jours à venir. En observant l'atmosphère, nous pouvons déterminer les températures locales, les précipitations, les nuages, la pression, les vents. On parle alors de données instantanées. Le climat, quant à lui, représente aussi les mêmes données de temps, mais ce sont des valeurs moyennes sur des années et sur des zones géographiques définies bien plus importantes comme les continents. Les épisodes météorologiques la survenue d'un hiver rigoureux ou d'un été pluvieux, par exemple, ne font qu'illustrer la variabilité du climat à court terme, à l'échelle d'une saison ou d'une année. Mais cette variabilité ne remet pas en cause la tendance au réchauffement sur le long terme.
Et pour observer cette tendance au réchauffement, nous avons un groupe d'experts qui planche sur le sujet depuis une trentaine d'années et on commence à les connaître, Domitil.
Oui, ce groupe d'experts s'appelle le GIEC depuis 1988, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat évalue nos connaissances sur le climat mondial. Les rapports du GIEC fournissent un état des lieux régulier des connaissances les plus avancées. Cette production scientifique est au cœur des négociations internationales sur le climat, notamment des fameuses COP 21, 22, etc. Et cette production scientifique est donc fondamentale pour alerter les décideurs et la société civile. En France, de nombreuses équipes de recherche travaille sur ces sujets impliquant plusieurs centaines de scientifiques.
Et à noter qu'on peut consulter chacun de ces rapports rendus depuis 1990. Bon, par contre, c'est en anglais. Et ces rapports, justement, font couler beaucoup d'encre car ils sont de plus en plus alarmants, Domitil.
Oui, que ce soit le dernier qui date de 2019 et qui veut nous avertir sur le réchauffement et l'acidification des océans, ou le tout premier qui tirait déjà la sonnette d'alarme, les constats sont là, la température du globe est en hausse.
Alors Domitil, expliquez-nous pourquoi la Terre chauffe-t-elle ?
Eh bien, la Terre reçoit en permanence de l'énergie du Soleil, vous le savez. La partie de cette énergie qui n'est pas réfléchie par l'atmosphère est absorbée par la croûte terrestre. En contrepartie, les surfaces terrestres et l'atmosphère émettent un rayonnement qu'on appelle infrarouge. Eh bien, l'intensité de ce rayonnement varie selon la température des surfaces terrestres, des sols. Vous me suivez ?
Oui, je vous suis, Domitil.
Une partie de ce rayonnement est absorbée par certains gaz et par les nuages, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'effet de serre. L'autre partie est émise vers l'univers et la température de la Terre s'ajuste pour trouver un équilibre entre l'énergie du Soleil et celle réémise sous forme de rayonnement infrarouge. À ce stade, il faut imaginer mon explication avec des flèches qui rentrent dans l'atmosphère et d'autres qui ricochent vers l'atmosphère. Et ce n'était pas votre voix, Charlotte, qu'on vient d'entendre, mais celle d'Arletty dans le film Hôtel du Nord. Le problème, c'est que s'il n'y avait que ça, ça irait. Ça tourne comme ça depuis des millénaires. Mais l'homme, l'humain, l'industrie, l'activité pétrolière et pas mal de facteurs qui ont tous en commun d'être humains produisent aussi des gaz à effet de serre. Et donc, il y a une surconcentration de ce rayonnement qui provoque une hausse de la température des surfaces. C'est la cause principale du réchauffement climatique observé ces dernières décennies.
Merci Domitil. Et allant à continuité de ce sujet autour du climat, j'accueille par téléphone Christophe Pain. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef du centre météorologique de Nantes. Alors est-ce que, avant qu'on parle de faire un bilan météorologique justement de ce début d'année, est-ce que vous avez une réaction, un commentaire à la chronique que vous venez d'entendre ?
Je peux que conforter ce qui a été dit. Oui. Je crois effectivement que même à des échelons très locaux, on constate ce réchauffement climatique. C'est vrai sur Nantes. Hein. Depuis les années 80, on voit bien cette inflexion, cette hausse. cette hausse des températures. Donc.
Alors nous sommes fin juin. Christophe Pin, quel bilan météorologique peut-on faire de ce début d'année ?
Alors pour comprendre la situation actuelle, il est peut-être bon, opportun de revenir un peu en arrière. Donc notamment de septembre à mars, hein, qui est chez nous ce qu'on appelle la saison dite de recharge, où je dirais que c'est la saison où la végétation tombe en dormance et la pluie qui nous tombe du ciel est vraiment efficace en termes de recharge des nappes phréatiques. Et cette saison particulière, donc, a été exceptionnellement humide, hein, puisque à l'échelle du département de Loire-Atlantique, en moyenne, on est sur cette période, on est à plus de 800 mm d'eau, donc c'est une quantité qui se classe au troisième rang des saisons de recharge depuis une soixantaine d'années. Donc, c'est très humide, donc ça a permis de recharger les nappes correctement, contrairement aux deux années précédentes. Donc, c'était bien. Bon, et puis à partir de mars, les pluies sont devenues plus hétérogènes, je dirais, avec ponctuées de longues périodes sèches. Je pense à la deuxième quinzaine de mars et surtout les deux dernières des 4 de mai. Et tout ça s'est produit dans une atmosphère très ventée et puis alors évidemment très chaude, puisque comme vous l'avez signalé, je corrigerai, mais c'est pour le département 44 et Nantes. Il faut savoir que c'est le printemps le plus chaud ait rencontré. Donc voilà, ce vent plus chaleur, ça, je dirais, produit une forte évapotranspiration et donc une baisse très rapide du taux d'humidité des sols superficiels, puisque fin mai, on est arrivé à des valeurs d'indice d'humidité des sols superficiels à des valeurs telles qu'on en observe une année telles qu'on en observe tous les 5 ans, je dirais. Donc je dirais ça, c'est ce qui a conduit les autorités en charge de gérer la ressource, je dirais, de prescrire des premières restrictions et limitations d'eau. Et puis en juin, qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez constaté, la dernière décade a été particulièrement humide, puisque à ce stade, au 23 juin, on est, par exemple, à Nantes, on a eu 94 mm d'eau, et vous sachez que la normale est à 43, donc vous voyez, à l'image de Nantes, mais c'est aussi vrai pour le département, on est à ce stade déjà à des quantités d'eau qui représentent deux fois celles d'un mois de juin normal, ça a permis de lever, je dirais, temporairement les restrictions sur le département.
Et est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un été très chaud ?
Sur le court terme, ce que je peux dire, c'est que, comme vous l'avez pu le constater dans la presse, on vous annonce des pics de chaleur, des canicules. Pour nous, ce sera plutôt, je pense, un petit pic de chaleur. On va dépasser les 30 degrés demain et après-demain. Mais bon, après, les températures rebaissent, puisqu'on va vers une petite dégradation orageuse en fin de semaine. Donc, quand même de la chaleur, mais pas de pluie. Donc, la semaine prochaine, il n'y a pas grand-chose qui est prévu, donc ça va être à nouveau tendu sans doute. À l'échelle du trimestre, on effectue des prévisions saisonnières, c'est un autre type de prévision, mais c'est un peu de la prévision probabiliste, mais on essaye de dégager un scénario qui tient simplement à dire s'il va être plus chaud, plus froid ou normal, ou alors plus humide, plus sec. Bon, il n'y a pas de scénario vraiment qui se dégage, donc on ne peut pas dire grand-chose d'autre. Quant aux températures, on est une région où on est un petit peu à la frontière, donc c'est un peu plus compliqué à dire, mais c'est vrai que une grande partie de la France est plutôt sous une tendance plus chaude que la normale, mais un grand quart nord-ouest est plutôt normal. Donc, vous voyez, on n'a pas de... c'est un état moyen. Ce type de prévision vous caractérise un état moyen pour les 3 mois à venir. Donc, rien n'exclut d'avoir des pics de chaleur. Donc, c'est pas avec ce type de prévision, en tout cas, qu'on prévoit les canicules. Donc, il n'y a pas un état moyen normal au niveau température et pas de... pas de scénario aussi en termes d'humidité qui se dégage, si c'est plus humide ou plus sec. Donc,
Pour terminer, Christophe Pain, est-ce que c'est un fait que ces hautes températures, ces périodes de canicule vont se répéter de plus en plus, ou ça, on peut pas encore se projeter, c'est pas encore une certitude?
Oh ben, je pense que si. Hein, on va avec. Je dirais l'augmentation des températures, elle va agir à la fois sur le cycle hydrologique, hein, via deux processus. Le premier qui est l'évapotranspiration dont je vous ai parlé, mais il y a aussi la neige qui influe aussi sur le débit des rivières. Donc c'est sûr que pour l'avenir, bon, moi je me place à plus long terme, hein, beaucoup plus long terme. Là, on est sur les décennies à venir. Hein, il est certain qu'on va avoir à gérer davantage de périodes sèches, hein, qui vont être beaucoup plus précoces et plus tardives, hein, avec donc des difficultés de gestion, hein, puisque évidemment pour satisfaire le monde agricole, mais aussi des régions qui, comme chez nous, vont voir un afflux de touristes. Donc il faut, voilà. Ça va engendrer, je dirais, des périodes un petit peu plus difficiles en termes de gestion de l'eau sur notre territoire. Des sécheresses, soit du sol, soit des sécheresses agricoles, qui seront plus fréquentes, plus importantes sur la durée. Et ça, je dirais, quel que soit le scénario climatique. Donc, il va falloir s'attendre à ça dans les prochaines décennies, et donc apprendre un petit peu mieux à gérer l'eau, quoi.
Voilà ce qui nous attend, Christophe Pain. Je rappelle que vous êtes chef du Centre météorologique de Nantes. Merci pour ce bilan et merci d'avoir répondu à mes questions.
Non, rien, merci.
Et nous arrivons au terme de cette émission. Encore merci à Céline Sierra qui était avec nous en début d'émission. Merci à Domitil de Vevey que vous retrouverez demain à partir de 7h dans la matinale. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site internet radio-fidélité.com. Quant à moi, je vous retrouve également demain pour un nouveau mag. Il sera question d'emploi jeune et de voyage. Alors je vous dis à demain, prenez soin de vous et belle journée à l'écoute des programmes de Radio Fidélité. We'll be right back.